Le journal présenté par Valentine Joubin.
Bonjour à toutes et tous. Après 15 jours de négociations acharnées, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté hier une trêve en Syrie. Un mois d'arrêt de combat pour évacuer les blessés et acheminer l'aide humanitaire. Mais les exigences de la Russie risquent de compliquer l'application du texte, nous dira Claude Brouillot depuis Moscou. Et pendant que les diplomates s'activent, les bombes continuent de s'abattre sur la route orientale à l'est de Damas. 400 000 habitants pris au piège et dans ce journal, vous entendrez le témoignage de deux d'entre eux. Dans cette édition, nous parlons aussi de la mobilisation du peuple israélien pour les réfugiés. Plusieurs milliers de personnes ont défilé hier à Tel Aviv contre l'expulsion des demandeurs d'asile, des Érythréens et des Soudanais censés quitter le pays d'ici le 1er avril. Au deuxième jour du Salon de l'agriculture en France, nous verrons que la nouvelle génération paysanne a anticipé les changements en cours, notamment climatiques. Et puis on fera un petit détour par Berlin. Le festival du film de la capitale allemande a décerné son ours d'or à une œuvre très osée sur le corps, entre fiction et documentaire. Ce n'est pas un accord de paix, mais un texte purement humanitaire. L'ambassadeur suédois soulignait déjà hier soir les limites de la trêve votée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Un cessez-le-feu d'un mois voté à l'unanimité après deux semaines d'intenses négociations. L'objectif est toujours le même, évacuer les blessés et faire parvenir une aide humanitaire. Emmanuel Macron et Angela Merkel doivent s'entretenir aujourd'hui au téléphone avec Vladimir Poutine pour s'assurer de l'application de la résolution. Car si la Russie a accepté de voter le texte, Claude Brouillot, c'est en imposant certaines conditions qui risquent de limiter l'effet de la trêve.
L'échange téléphonique programmé ce dimanche entre Vladimir Poutine, Emmanuel Macron et Angela Merkel sera géré au Kremlin comme la suite logique des conditions discutées par la Russie pour finalement donner son accord à la résolution onusienne. La diplomatie russe s'attend à devoir passer des écrits aux actes sur le terrain, en Syrie, à l'endroit même où l'armée russe stationne matériel et personnel. Elle n'agira pas réellement en revanche pour superviser le cessez-le-feu si elle sent le moindre risque d'affaiblir le régime de son allié Bachar al-Assad. Et tout sera question d'interprétation. La liste des groupes combattants qualifiés de terroristes et donc exclus de l'accord de cessez-le-feu a été âprement discutée par le Kremlin. La Russie a fini par signer une résolution qu'elle qualifiait pourtant d'irréalisable sur le terrain il y a encore quelques jours. Elle sait que l'échec dans l'application du cessez-le-feu pourrait lui être imputé pour partie. Vladimir Poutine a néanmoins pris le temps de calculer ce risque en s'assurant d'abord que son pays préservait ses intérêts dans la région.
La Russie qui dément par ailleurs toute participation au raid du régime syrien sur la Route orientale. L'enclave tenue par les rebelles est depuis 7 jours la cible de bombardements et de tirs incessants. Hier encore, près de 40 civils dont 8 enfants ont été tués. Et ceux qui survivent sont pris au piège. Mélanie Houet, notre reporter, a recueilli le témoignage rare de deux habitants.
Les armes ne se sont pas tues dans la Ghouta orientale. Samedi soir, plus de 3 heures après l'adoption d'un cessez-le-feu par l'ONU, les bombardements se poursuivaient dans le dernier bastion rebelle de la banlieue d'Amasène. Shams, une mère de famille de 34 ans contactée par WhatsApp, n'a pas quitté l'abri dans lequel elle se cache depuis 48 heures avec ses deux enfants.
Les raids continuent. Au moment même où je vous parle, les avions sont toujours dans le ciel. Ils frappent très fort. Nous sommes terrifiés.
La trêve votée par l'ONU soulève peu d'espoir parmi les 400 000 habitants qui, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, vivraient toujours dans l'ancien poumon vert de la capitale. Wassim Al-Khabib, un journaliste présent sur place, explique par message audio.
Un cessez-le-feu n'est pas suffisant, il ne sera que temporaire et on le sait, le régime recommencera à cibler les civils.
Dans la Ghouta orientale, beaucoup craignent la reproduction du scénario de la bataille d'Alep, reprise par le régime fin 2016, à l'issue de raids intensifs et d'un siège asphyxiant. Car le quotidien loyaliste Al-Watan l'a d'ores et déjà annoncé, les frappes du régime ne seraient qu'un prélude à une opération d'envergure au sol.
Reportage de notre correspondante à Beyrouth, Mélanie Houet. C'est un climat de fébrilité qui règne en ce moment à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Malgré l'interdiction des autorités, les opposants catholiques ont bien l'intention de manifester aujourd'hui pour réclamer le départ du président Joseph Kabila. Hier soir, ils ont envahi une cathédrale de la capitale, ce qui fait craindre de violents affrontements. Les dernières marches de ce comité laïque en décembre et janvier avaient entraîné la mort de 15 personnes. En Israël, c'est la politique migratoire migratoire du gouvernement qui est dénoncé dans la rue. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées hier à Tel Aviv contre l'expulsion des demandeurs d'asile. Les autorités veulent exfiltrer d'ici le 1er avril tous ceux qui sont arrivés illégalement dans le pays depuis 2007, soit près de 20 000 personnes. Des Érythréens, des Soudanais qui ont désormais le choix entre l'expulsion vers un pays tiers comme le Rwanda ou la prison. Une situation contre laquelle les Israéliens commencent à se mobiliser. C'est le reportage à Tel Aviv de Marie Semelin.
Au milieu de la foule, un peu courbée, il y a Véronica Cohen, 73 ans, et son mari. Ils tiennent ensemble un panneau où l'on peut lire « Nous étions tous des réfugiés ».
Chaque Israélien devrait pouvoir s'identifier avec cette problématique. Nous sommes tous des réfugiés. La plupart d'entre nous ont vraiment dû fuir pour rester en vie. Moi, par exemple, je suis née dans un ghetto à Budapest. J'ai survécu vraiment par miracle. Puis j'ai fui le communisme de la Hongrie. C'est évident que nous, réfugiés, nous ne pouvons pas expulser d'autres réfugiés. Mais quand je regarde autour de moi, je ressens un peu d'espoir. Il reste des bonnes personnes en Israël.
Dans les manifestants, beaucoup de demandeurs d'asile sont aussi présents, comme Arfouroum, un jeune érythréen. Il est arrivé ici illégalement il y a 10 ans en traversant le désert du Sinaï en Égypte.
On ne va pas partir vers un autre pays, on va rester ici. Quitte à perdre la liberté, moi je préfère être en prison ici en Israël plutôt que d'être emprisonné je ne sais pas où. J'espère que le gouvernement va changer d'avis.
Mais la majorité des Israéliens veut le voir partir. 66% d'entre eux, d'après un sondage récent de l'Institut israélien pour la démocratie, soutiennent le plan d'expulsion du gouvernement.
Un reportage à Tel Aviv de Marie Semelin. Des applaudissements, quelques huées et une poule. Voilà le bilan de la visite d'Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture hier. 12h30 de déambulation à record, marqué notamment par un échange musclé avec un agriculteur très remonté contre l'interdiction d'ici 3 ans du glyphosate. Un monde agricole peut-être inquiet parfois, mais qui est aussi de plus en plus tourné vers l'avenir. En pleine mutation même, estime Éric Birloué, agronome et sociologue de l'agriculture et de l'alimentation. Il répond à Anne-Laure Chouin.
Je crois que le monde agricole a vraiment pris conscience que les choses changent, ne serait-ce que parce que de plus en plus d'agriculteurs viennent de l'extérieur de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est une installation sur 3 qui est le fait de personnes qui ne sont pas issues du monde agricole. Les conjointes d'exploitants, les femmes d'agriculteurs travaillent à l'extérieur, 2 sur 3. Le font et travaillent dans un secteur qui n'est pas agricole. Et donc là, on voit bien que tout ça accélère la prise de conscience que les choses ne seront plus comme avant, qu'on est à la fin d'un cycle et que l'agriculture familiale qu'on a connue dans les années 50, 60, 70, 80, du couple qui travaille sur une petite exploitation, eh bien ça c'est quelque chose qui existe toujours évidemment, mais qui éclate. De la même manière qu'il y a des consommateurs qui ont des attentes éclatées, on a aujourd'hui des mondes agricoles, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont du tout en opposition, ils peuvent évidemment se parler, mais il y a une pluralité de l'agriculture qui existe aujourd'hui et qui correspond aux différentes attentes des consommateurs. Il faut voir les jeunes générations, et les jeunes générations, c'est-à-dire ceux qui sont ou qui seront les agriculteurs et les consommateurs de demain, eh bien eux, ils vont très vite et ils acceptent beaucoup plus facilement que les anciens que le monde change. Moi, pour côtoyer quand même les agriculteurs, je vois bien que leur discours depuis quelques années montre qu'ils ont pris conscience qu'on était vraiment en transition et qu'il fallait penser les choses différemment et accepter la pluralité et la diversité.
Lui n'ira pas au Salon de l'agriculture, mais semble plutôt sensible aux revendications des agriculteurs. Nicolas Hulot, dans une interview au JDD, se dit prêt à envisager des exceptions pour l'interdiction du glyphosate, prévue donc d'ici 3 ans. Quant à l'accord commercial négocié en ce moment entre l'Union européenne et le Mercosur, Nicolas Hulot estime qu'il n'est pas acceptable en l'état. À 5 jours des Césars, l'Allemagne nous lance un défi féministe. La Berlinale, le festival du film qui se déroule dans la capitale, a décerné hier près de la moitié de ses récompenses à des femmes. Une édition très marquée donc par le mouvement MeToo et les débats sur la place du corps des femmes dans la société. À l'image de l'Ours d'or, le film Touch Me Not de la réalisatrice roumaine Adina Pintili, la grande surprise de ce palmarès, Nathalie Versieux.
C'est l'un des plus radicaux, mais aussi l'un des plus critiqués des films qui figuraient en compétition. Touch Me Not est un essai sur les limites de l'intimité, avec des scènes de sexe si crues que quantité de spectateurs avaient quitté la salle lors de la projection. Sexualité des handicapés, échangisme, transsexuel, séance chez un sexologue, Touch Me Not est un film qui ne peut pas être critiqué à la limite du documentaire, estime Le Quotidien. Tag Spiegel, un film expérimental, ajoute le magazine Die Zeit. Cette coproduction germano-roumaine a également remporté le prix du premier film. Jamais une Berlinale n'a été aussi féminine. 6 des 11 distinctions vont cette année à des femmes. Un palmarès à la hauteur de cette 68e édition du Festival de Berlin, un festival connu pour son engagement et ses polémiques.
On termine par quelques mots de la météo et c'est un temps sec et froid qui nous attend aujourd'hui. Moins 4 à moins 7 degrés sur le Grand Est, 0 à moins 4 ailleurs et de 2 à 6 degrés près de la Méditerranée.